Je vous remercie pour cette occasion. Vous avez constaté que tous les Toulousains n'ont pas le même accent toulousain. Alors j'apprécie d'autant plus votre écoute et l'honneur que vous me confiez de pouvoir apporter la parole ce soir. Nous lirons dans la première épître de Corinthiens, chapitre 1, cette déclaration majestueuse de Paul sur le sujet en question, la croix comme notre message. 1 Corinthiens chapitre 1, je commence en verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Il continue en chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je me suis marié dans un vieux temple protestant qui se prêtait bien à l'occasion. Et plusieurs d'entre vous, je pense, y étaient. Vous vous souvenez peut-être. Il y avait dans ce temple une de ces grandes chaires que les prédicateurs montaient autrefois pour prêcher l'évangile. Et sur les murs de ce temple, on avait peint plusieurs versets, comme on a l'habitude de faire dans les salles de culte. Et notamment le verset qu'ils avaient peint au plein centre, à une grande hauteur, au-dessus de cette chaire, c'était la phrase que nous avons lue en verset 23. « Nous prêchons Christ crucifié. » Par contre, avec l'usure des années, avec le manque d'entretien, la peinture des lettres était toute effritée et une grande partie même s'était décollée du mur, de sorte qu'il ne restait qu'une vague trace de ces quatre mots. Qu'on distinguait à peine. Les autres versets n'avaient pourtant pas souffert, mais celui au centre était dans un piteux état. Mais encore plus frappant, en entrant dans l'église, en regardant ce verset, c'était de voir que le mot Christ avait été complètement effacé. Et de toute évidence, cela a été fait délibérément. Quelqu'un a dû, avec un effort considérable de gymnastique, d'escalade, monter à une grande hauteur et gratter le mur pour effacer, pour enlever le mot Christ. Cela faisait qu'en entrant dans cette église, la première chose qu'on voyait n'était plus cette affirmation « nous prêchons Christ crucifié », mais une vague ressemblance à peine lisible. Et ce qui s'est passé sur ce mur, j'ai peur que ce qui se passe dans bien des églises sur le plan spirituel, la prédication de Christ crucifié qui devrait s'afficher au centre de tout, qui devrait accueillir le monde, qui devrait interpeller les regards, qui devrait encadrer le pupitre, eh bien, cette prédication, elle s'est détériorée. Et maintenant, lorsqu'on entre dans l'église, il ne reste qu'une vague ressemblance. Elle n'est pas complètement disparue, mais elle est dans un piteux état. Dans certains cas, je suppose qu'il s'agit d'un manque d'entretien, par lassitude, par oubli, par découragement. Mais j'ai peur que dans d'autres cas, il s'agit d'un acte volontaire, délibéré, de supprimer ce moyen pour le remplacer avec d'autres qui seraient mieux adaptés à la société dans laquelle nous vivons et qui produiraient de meilleurs résultats. Vous le constatez avec moi. Nous l'avons fait ce week-end. On entend, dans le monde évangélique, nous entendons constamment de nouvelles propositions et de nouvelles méthodes pour enfin avoir les résultats auxquels on aspire tous. Mais que la France semble si lente à produire. Je parle du salut des gens, la croissance des églises, la maturité des chrétiens. Et on offre, on propose, on cherche de nouvelles méthodes. Et aujourd'hui même, on vous livre la chose en kit, un pack, avec tout le matériel nécessaire, une installation facile, vous n'avez qu'à suivre les instructions et vous êtes branché avec le monde. Mais dans la quasi-totalité de ces méthodes, soyons honnêtes, on n'encourage pas la prédication de la croix comme le moyen principal d'atteindre l'homme du 21e siècle et au contraire, elle est souvent déconseillée comme une chose déplacée de notre temps et l'accent est mis sur d'autres moyens plus modernes et des sujets plus pertinents. Le moyen n'est plus la prédication, le sujet n'est plus la croix. Voilà ce que le site internet d'une église évangélique très connue, très imitée dans le monde d'aujourd'hui, affiche pour décrire le contenu régulier et typique de ces messages. Je cite, « Nos messages se concentrent sur des questions de la vie courante. Nous voulons que les gens puissent dire que ce qu'ils ont entendu pendant le week-end avait quelque chose pour les aider le lundi dans la famille, au travail et dans leur vie. » Alors vous voyez, l'accent n'est plus mis sur la prédication de la croix, on ne peut plus afficher, nous prêchons Christ crucifié, on affiche plutôt, nous prêchons une gestion de vie, nous proposons une gestion de vie. C'est certainement dans un but noble d'aider des gens, mais est-ce vraiment la meilleure façon de les atteindre avec l'Évangile? Alors, dans le texte que nous avons lu, nous avons une description du ministère de Paul où il explique quel était son moyen d'amener les gens dans une relation avec Dieu. Quel était ce moyen? On ne peut pas le rater. On l'a lu, on le trouve en verset 18, verset 21, verset 23, chapitre 2, verset 2, verset 7. C'est la prédication de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons, verset 6, nous prêchons la sagesse de Dieu, verset 7. Paul y misait tout son succès sur ce moyen. Et ce qui était frappant dans le verset que nous avons lu, chapitre 2, verset 2, c'est qu'il a même pris une résolution déterminée de ne pas en employer d'autres. Quand il dit « je n'ai pas eu la pensée », littéralement, c'est « j'ai déterminé, j'ai pris la résolution, j'ai tranché, j'ai jugé. Quand je vais chez les gens, quand les gens viennent vers moi, ma méthode, ma présentation, mon message, Christ est Christ crucifié. » Et c'est cette même détermination que nous voulons prendre ce soir, nous voulons entretenir ce soir. Si Paul il a pris cette détermination pour ne pas être tenté à employer les méthodes et le langage qu'enseigne la sagesse du monde, eh bien, à combien plus forte raison nous devons aussi nous résoudre, nous déterminer. Vous savez, dans le monde du commerce et du droit, il y a une question qui revient souvent, j'ai appris cela récemment, c'est celle de la différence entre une obligation de moyens et une obligation de résultats. Je prends cet exemple parce que plusieurs cas de litiges sont passés devant les grands tribunaux en France récemment pour des services d'Internet et de téléphonie. Si vous avez du mal à vous connecter des fois, peut-être ça vous concerne. Obligation de moyens ou obligation de résultats? Les clients, nous, on veut les résultats. On veut pouvoir se connecter. Les entreprises, eux, ils aimeraient juste assurer les moyens. Les fils arrivent à votre logement. Tant pis si ça ne marche pas, les moyens sont en place. Et la loi les oblige de plus en plus maintenant, dans les clauses, à une obligation de résultat. Les résultats sont obligés. Mais qu'en est-il pour l'Église ? Est-elle soumise à une obligation de moyens ou une obligation de résultat ? Et donc j'ai retenu ces deux mots pour conduire nos réflexions ce soir, le moyen et les résultats. Quelle est notre obligation ? Parce que Dieu, par la bouche de Paul, il a déjà jugé notre cas. La loi est claire. Et on va d'abord parler du moyen obligé pour nous. Et puis nous verrons ensuite que Dieu s'est fixé lui-même une obligation de résultat par ce moyen. Et ma prière, c'est que nous soyons tous renouvelés dans notre détermination d'employer ce moyen, de prêcher Christ crucifié, non seulement parce que nous avons une obligation, mais à cause des résultats puissants et glorieux que Dieu donne, que Dieu a promis de donner par ce moyen, dans ce pays et dans nos églises. Alors rappelons d'abord que nous avons une obligation de moyen. Et ce moyen, dans notre service chrétien, c'est de prêcher la croix. Certaines données peuvent changer, mais ce sera toujours le même message de la croix que Dieu nous appelle à dispenser pour le monde. Et dans ce texte, on voit, notamment en verset 23, 24, il y a divers auditoires, un seul message. Diverses réponses, un seul message. Divers prédicateurs, un seul message. On va prendre ces choses. Il y aura divers auditoires, mais un seul message. Regardez ce que Paul faisait en versets 22 et 23. Chapitre 1, toujours chapitre 1. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Paul se trouvait devant deux groupes de personnes, les Juifs et les Grecs. Chacun avait des styles, des pensées, des arrière-plans différents. Pour interpeller un Juif avec le message de Dieu, il fallait un miracle du genre sensationnel, dans le style d'Élie ou de Moïse, le feu qui descend du ciel, l'eau qui éclate du rocher. Pour interpeller un Grec, il fallait la sagesse, un discours de sagesse dans le style de Platon ou d'Aristote. Et sinon, ils n'étaient pas intéressés par ce qu'on leur disait. Alors, comment s'y est pris Paul avec ces groupes ? Est-ce qu'il a satisfait leurs demandes ? Non, les Juifs demandent ceci, les Grecs demandent cela, mais, le « mais » y est dans le grec, « mais nous prêchons Christ crucifié ». Il ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. On dirait même qu'il leur a proposé le contraire. Il demande un signe de puissance, il leur donne un signe de faiblesse. Il demande la sagesse, il leur donne une folie. Alors pourquoi fait-il cela ? Parce qu'il était ignorant ou insensible à l'arrière-plan culturel de ces personnes ? Parce qu'il n'était plus à la page ? Parce qu'il ne savait pas adapter son message à son auditoire ? Non ! C'est parce qu'il savait que ce n'est pas toujours sage de donner à des personnes qui sont par nature aveugles et corrompues ce qu'elles réclament ou ce dont elles pensent avoir besoin. Cela peut les faire sentir à l'aise. Cela peut remplir une salle, mais cela ne peut pas les sauver. On le voit ici, les Juifs avaient déjà eu plein de miracles. Les Grecs avaient déjà entendu plein de philosophes et de discours très sages. Ce n'est pas pour autant qu'ils connaissaient Dieu et qu'ils l'aimaient. De plus en plus, on entend le besoin d'accommoder le message au style et aux envies de notre auditoire. Selon l'âge, selon la culture, selon les goûts qui sont représentés, pour ne pas leur dresser un obstacle à l'Évangile. Mais attention, ici Paul nous rappelle notre obligation, non pas de donner ce que les gens veulent, ce que les gens demandent, mais de leur donner la croix, la seule chose qui puisse les transformer et les sauver. Et il faut se souvenir des fois que pour les personnes non régénérées, les personnes du monde, leurs désirs, leurs goûts, leurs envies, leurs styles, leurs idées, parfois leur musique, parfois leur habillement et même des fois des habitudes liées à la culture sont des choses même que Dieu veut transformer par le message de la croix. C'est vrai, Paul, avec l'intelligence qu'il avait, j'imagine qu'il aurait pu sortir le langage et le discours qui faisait plaisir aux Grecs. Mais c'est justement cette sagesse humaine, ce langage dont Dieu voulait les débarrasser, parce qu'elle conduit à l'orgueil, à la confiance en l'homme. Mais Paul voulait que leur foi soit fondée sur Dieu, la puissance de Dieu, et non pas sur la sagesse des hommes, ce qu'ils réclamaient. Pareil pour les Juifs, Paul aurait pu faire des miracles. Pour les Juifs qui demandaient des miracles, il en a déjà fait pas mal en tant qu'apôtre. Mais encore une fois, il ne voulait pas que les gens s'attachent aux signes et aux miracles, mais qu'ils s'attachent à Christ et à sa croix. Alors, il leur a donné la croix. Dans le public aujourd'hui, on trouvera encore les demandeurs de signes et les chercheurs de sagesse. Alors, parlons de ces deux groupes. Les demandeurs de signes. D'où vient cette fascination dans les signes, les miracles? Pourquoi les Juifs demandaient-ils des signes? On pourrait sortir plusieurs raisons, mais Jésus dévoile la vraie raison. Jean 6, verset 26. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. On aime les signes et les miracles parce qu'ils sont agréables aux sens et on aime bien avoir les sens stimulés. On veut voir des choses spectaculaires. On veut goûter des choses délicieuses comme ces Juifs. On veut entendre des sons puissants. On veut ressentir des sensations fortes. Tout le monde aime ça. D'où vient, je pense, l'intérêt général de notre monde dans les concerts, le cinéma, les soirées, le sport, le sexe. Ce sont les activités qui stimulent les sens d'une manière assez forte. Et c'est agréable, c'est recherché par tout le monde. Ils sont demandeurs vendredi soir à la boîte, ils sont demandeurs samedi soir au stade, ils sont demandeurs dimanche matin au culte. Qu'est-ce qu'on leur donne donc pour qu'ils passent un bon moment avec nous? Des sons puissants? Des sensations fortes? Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Et les chercheurs de sagesse, existent-ils encore? Bien sûr. Ceux pour qui le message doit avoir une explication rationnelle et logique, ceux pour qui le message doit s'aligner avec la philosophie du monde, avec la sagesse politique, dans un langage contemporain. Alors, quel message présenter à ceux qui cherchent de telles choses? Comment leur parler? Nous prêchons Christ crucifié. Alors, divers auditoires, diverses cultures, des styles différents, des âges différents, mais chacun, et chacun avec des demandes différentes, mais un seul message pour tous, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Il y a une histoire intéressante dans la vie de Rubens Saïens qui le confirme, cet évangéliste en France. Dans sa biographie, on raconte ceci. Il venait de tenir une réunion, une série de réunions à Rouen, avec des messages spécialement destinés aux gens de la rue et à des clochards des quais, ce qu'il appelle un public rude, dur et coriace. Et à ce moment, il reçoit l'invitation de la Haye, je pensais en Hollande, de prêcher dans une église wallonne. Il dit, voilà ce qu'il dit, « Je n'avais pas le temps de préparer une autre série de conférences et m'apprêter à donner à la Haye ce que j'avais donné à Rouen, mais voilà qu'on vient m'avertir que la reine comptait être présente. Des causeries destinées à des clochards pourraient-elles servir pour la reine et son escorte? Mais je repris courage, l'évangile est le même pour les uns et pour les autres, je répétais ma série. » Une série qui a beaucoup touché la reine puisqu'elle est revenue à chaque soirée et elle a lié amitié avec Ruben Sainz. Alors, on n'a pas besoin de s'inquiéter lorsque le public change, quelle que soit leur demande. Le public à Jérusalem, au 1er siècle, n'était pas celui à Athènes, n'était pas celui à Genève des siècles plus tard, n'était pas celui à Rouen, n'était pas celui à Saint-Denis, à Toulouse, à Nice, à Rouen aujourd'hui. Mais dans tous ces endroits, la prédication de la croix est parfaitement appropriée pour toucher les cœurs. L'histoire le confirme et la Bible l'oblige. Mais il y aura aussi diverses réponses, encore un seul message. En verset 23, Paul il décrit les différentes réponses qu'il a reçues à ce message. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Juifs, en entendant parler de la croix, ils étaient choqués, scandalisés, rebutés. Les Grecs, ils se marraient, ils se moquaient d'une telle folie. Et c'est vrai, de telles réponses ne sont pas surprenantes. La pensée de Dieu est étrange à l'homme. Un Nazaréen crucifié par des Romains sur un bois maudit. Il ne faut pas proposer ça à un Juif qui est si attaché au Tout-Puissant. Comment accuser le Tout-Puissant d'une telle faiblesse, d'une telle honte pour notre Messie? Et puis pour les Grecs, ça ne correspondait pas non plus. Une personne entièrement homme, entièrement Dieu, qui meurt, qui ressuscite pour le pardon des péchés, c'est inacceptable selon les règles de sagesse et de raisonnement établies parmi les Grecs. Alors, naturellement, un tel message produit des réponses négatives. Mais est-ce pour autant que Paul a changé de moyen, a modifié le message? Non, nous prêchons Christ crucifié, qu'il soit scandale ou folie, nous le prêcherons. Et puis, on voit divers prédicateurs, encore, toujours, un seul message. Paul dit ici, nous prêchons Christ crucifié. Il dit nous parce qu'ils étaient plusieurs à travailler ainsi. Il y avait lui, il y avait Pierre, il y avait Apollos, il y avait peut-être Sosthène qui cite dans les salutations, il y avait Silas et Timothée qui ont travaillé avec lui à Corinthe. Nous prêchons Christ crucifié. Et parmi eux, il y avait différents dons, différents appels, différents ministères, mais ils prêchaient tous le même message. Nous prêchons Christ crucifié. Ce n'est donc pas un message réservé uniquement aux apôtres. Il y avait parmi la bande qui n'étaient pas apôtres. Ce n'est pas un message réservé uniquement à ceux qui ont le don d'évangéliste ou uniquement aux orateurs doués. C'est un message qui peut être prêché même par quelqu'un qui se trouve dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, comme Paul lui-même. Alors vous voyez, les désirs de l'auditoire peuvent varier, la réponse peut être négative, le prédicateur peut changer, néanmoins la prédication de la croix reste le moyen obligé par la Bible pour communiquer avec le monde. Alors maintenant, parlons des résultats. Avec ce message, ce moyen, qui est tellement en décalage avec le style du monde, faut-il se résigner à l'échec et à la pauvreté dans le ministère? Faut-il prendre l'attitude de ces entreprises qu'ils aiment bien avoir juste une obligation de moyens? Tant pis si ça ne marche pas, nous, on ne s'occupe que des moyens, les résultats, ce n'est pas notre affaire. Est-ce l'attitude à avoir? Non! La Bible dit que la croix ne serait pas prêchée en vain, puisque Dieu lui-même s'engage à produire des résultats par elle. Regardez tout ce que fait Dieu quand la croix est prêchée, dans ce chapitre 1. Par elle, verset 18, il déclenche sa puissance qui sauve. Par elle, verset 19, il détruit la sagesse du monde. Par elle, verset 21, il sauve ceux qui croient. Quand la croix est prêchée, verset 24, ceux qui sont appelés viennent et comprennent. Par elle, chapitre 2, verset 4, Dieu fait des démonstrations d'esprit et de puissance pour susciter la vraie foi. Alors c'est merveilleux, c'est tout ce que nous voulons. Quelle musique peut produire de tels résultats? Quel spectacle peut faire autant? Quelle démarche politique vous donnera ses résultats. Quel conseil sur la gestion de vie du lundi matin va faire cela? Aucun. Dieu a attaché d'une manière inséparable sa bénédiction, sa puissance à la prédication de la croix. Dans un autre contexte qu'on connaît bien, Dieu exige que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et ici, nous avons un mariage de deux choses. C'est la prédication de la croix et la vraie puissance de Dieu qui produit de vrais résultats. Et il ne faut pas les divorcer. Dieu agit, il va toujours agir par elle, par la croix, par ce message. Raison à ne pas l'abandonner. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu a-t-il choisi la croix pour produire ses résultats? Pourquoi Dieu a-t-il une telle préférence pour ce moyen au-delà de tout autre? Alors je vous propose deux raisons qui peuvent nous encourager à ne pas changer de moyen, mais rester avec ce moyen qui pour Dieu est le meilleur et qu'il aime le plus. Comme rien d'autre, elle glorifie Dieu. Et comme rien d'autre, elle offre après tout ce que les hommes veulent et ce qu'ils cherchent. Comme rien d'autre, la croix glorifie Dieu. Et c'est pour cela qu'il a une telle préférence pour ce moyen. La croix nous fait voir la meilleure manifestation de la gloire de Dieu. On le disait l'autre soir. C'est là où Dieu manifeste l'ensemble de ses attributs glorieux. C'est là où il proclame son nom d'une manière la plus complète, la plus compréhensible, la plus attirante. Et c'est pourquoi Jésus a voulu y aller. Il dit peu avant sa mort, en Jean chapitre 12, versets 27 et 28, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et c'est à cette heure de la croix que Dieu a glorifié son nom. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas voulu en être délivré, mais il a voulu y aller. Père, glorifie ton nom donc. Qu'est-ce que le nom de Dieu? Eh bien, c'est son caractère, c'est la manifestation de sa nature. Vous avez l'exemple quand Dieu a proclamé son nom à Moïse sur la montagne, vous vous souvenez, quand Moïse lui a demandé de faire voir sa gloire, eh bien Dieu lui a transmis plus ou moins une liste de ses attributs, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, sa justice, son amour, c'était ça son nom. Je proclamerai mon nom, je suis toutes ces choses. Et comme Jésus a prié qu'il fasse, Dieu a parfaitement glorifié, proclamé son nom à la croix. Parce que c'est là où il a pu montrer tous ses attributs. Tous les attributs qui composent son nom glorieux. C'est là où il a proclamé et révélé sa puissance et sa sagesse, comme on voit en 1 Corinthiens 1. C'est là où il a prouvé son amour comme jamais ailleurs, comme on voit en Romains 5, entre autres. C'est là où il a manifesté sa justice, dit Romains 3. C'est là où on voit aussi sa colère et son irritation contre le péché. C'est là où on voit sa souveraineté, sa providence dans les affaires des hommes, comme dit Actes chapitre 4. C'est là où on voit sa sainteté, c'est là où on voit sa fidélité en gardant sa parole et ses promesses. Donc vous voyez, il n'y a rien comme la croix de Jésus qui révèle le caractère si admirable, si majestueux de Dieu. Et on comprend donc pourquoi Dieu ne veut pas qu'on la mette de côté. C'est sa gloire. Mais quand c'est à sa gloire, c'est à notre avantage aussi. Parce que là où Dieu est glorifié, là les hommes sont attirés. L'homme est attiré naturellement par la gloire. C'est ce que Jésus dit dans le même passage en Jean 12. C'est ce merveilleux verset. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors là, Jésus parle d'être élevé. C'est effectivement ce qui se passe quand on est sur une croix, contrairement à la lapidation, par exemple, où on est plutôt abaissé. Mais il y a un double sens dans ce mot élevé. Le mot élevé signifie aussi élevé à la dignité, élevé aux honneurs. Et par la croix, oui, Jésus a été élevé quelques mètres de la terre, mais par elle, il a été élevé aux honneurs et à la dignité, comme dit bien les versets de la Bible, Apocalypse. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà, c'est par la croix où il est élevé en gloire. Et c'est là où il se montre comme le sauveur digne de foi, digne d'adoration, le rédempteur digne de notre amour. Et quand l'homme voit un Dieu si glorieux, si élevé, si parfait, si adorable, si convenable, il est attiré. Il ne peut qu'être attiré. Quand je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est nous, les prédicateurs de l'Évangile, qui pouvons élever Jésus de cette manière, sur la croix, pour qu'il attire les hommes à lui. Et puis aussi, là où Dieu est glorifié, forcément là où il envoie sa bénédiction et sa puissance. Et sur le prédicateur, et sur l'assemblée. Dieu avait dit, « Celui qui m'honore, j'honorerai. Celui qui me méprise, je mépriserai. » Et puisque la croix l'honore comme rien d'autre, il va honorer un tel ministère. Il y a David Brainerd, ce jeune missionnaire auprès des Indiens en Amérique du Nord. Voilà ce qu'il a découvert quand il prêchait la croix. Il dit « Je suis souvent surpris, quand je parle de ces choses, de retrouver une liberté, une pertinence, une passion et une application du conscience telles que je n'aurais jamais pu maîtriser par les efforts les plus assidus. » Il dit « Il a plu à Dieu de m'aider à ne pas avoir su parmi eux autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et ce message que Dieu a utilisé pour propager cette œuvre parmi les Indiens. » Brainerd, il avait tout contre lui, le langage, la culture, l'état primitif de ce peuple. Il pouvait se désespérer de tout résultat, mais lorsqu'il se mettait à parler de Christ et de Christ crucifié, il se sentait lui-même soutenu et béni, les mots venaient, l'esprit venait, et il voyait la bénédiction se répandre sur le peuple, sur les Indiens. Il a vu cette démonstration d'esprit qui glorifie Dieu. Mais si on s'appuie sur les moyens humains, les moyens qui glorifient l'homme, Dieu ne va pas vouloir donner les mêmes résultats. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors, comme rien d'autre est glorifie Dieu, on ne va pas l'abandonner, un tel message, un tel moyen. Mais aussi, comme rien d'autre, elle offre après tout ce que les hommes cherchent. Dieu connaît le cœur de l'homme mieux que l'homme lui-même. Dieu sait qu'à la croix, l'homme trouvera tout ce qu'il cherche et tout ce dont il a besoin pour être heureux, même si l'homme n'est pas encore au courant que c'est sa solution. Et c'est pourquoi Dieu tient à ce qu'on prêche la croix et pas autre chose. Pour ceux qui demandent des miracles, pour ceux qui cherchent la sagesse, c'est exactement ce que la croix leur offre, dit le verset. Les Juifs demandaient une manifestation de puissance. Les Grecs cherchaient la sagesse. C'est exactement ce qu'est le message. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La croix offre ce que les hommes cherchent au-delà de toute attente. Alors, certaines vont le rejeter en disant que c'est un scandale, une bêtise. Mais Paul dit que grâce à l'œuvre de Dieu, à l'appel de Dieu, il y aura toujours ceux qui verront la croix pour ce qu'elle est vraiment, la puissance, la plus grande manifestation de puissance, la plus grande sagesse que l'univers n'ait jamais vue. Et ceux-là, ils vont l'aimer, ils vont la chérir, ils vont arrêter leurs recherches pour autre chose et ils vont nous remercier de ne pas avoir proposé moins. Il y a le pasteur Jonathan Edwards qui exprime l'expérience de tout croyant. Ainsi, j'aime bien ces mots, il existe une telle excellence en Jésus-Christ que ceux qui la voient ne cherchent pas plus loin et l'âme s'y repose. En lui, l'âme voit une gloire transcendante et une beauté ineffable. Elle reconnaît que jusqu'à présent, elle poursuivait des ombres. Mais maintenant, elle a trouvé la substance. Avant, elle cherchait le bonheur dans le ruisseau. Maintenant, elle a trouvé l'océan. L'excellence de Christ est un objet suffisant pour tous les désirs de l'âme, capable de remplir toute sa capacité. Alors, n'est-ce pas criminel de séduire un homme avec un ruisseau tarissable quand on peut lui proposer un océan? Vous savez, on a demandé à boire à Jésus. Il n'a pas donné à boire comme la personne attendait, il a proposé l'eau vive. On a demandé à Christ du pain. Il ne leur a pas donné le pain qu'il voulait, il leur a offert le pain de vie, sa chair brisée. On lui a demandé un signe. Il ne leur a pas donné le signe qu'il voulait, il leur a donné mieux, le signe de Jonas, la résurrection. On a demandé aux apôtres de l'argent. Ils n'ont pas donné l'argent. Ils ont donné ce qu'ils avaient, le message de Jésus-Christ, et ce demandeur d'argent, il était bien content d'avoir reçu plutôt le message de Jésus-Christ que quelques pièces. Les hommes demandent des choses selon ce qu'ils peuvent concevoir, mais Dieu a beaucoup mieux en réserve qu'il nous a confié pour leur donner. Chapitre 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Et c'est ces choses-là qu'on partage, qu'on prêche. Alors vous voyez, la croix, c'est le moyen par excellence par lequel Dieu produit des résultats excellents. Pour sa gloire, pour notre bien. Et j'espère que vous êtes convaincus maintenant, sûrement déjà, que tout autre moyen est inférieur et produira des résultats inférieurs. Mais malheureusement, il nous arrive des fois d'agir comme certains rois de Juda. Plusieurs d'entre eux, même des bons, lorsqu'ils se sont trouvés face à une menace du monde, en danger d'une perte des nombres ou d'un affaiblissement du peuple, ils ont réfléchi selon la sagesse du monde et ils ont échangé les trésors de la maison de Dieu, l'or et l'argent qui se trouvaient dans le temple, contre une promesse de sécurité. Et Dieu leur dit, après coup, « Mais pourquoi n'êtes-vous pas appuyés sur moi ? Là, vous avez échangé votre trésor et vous n'avez rien gagné de valable en échange. » Nous avons un trésor. Ce trésor, c'est le message de la croix. C'est la beauté et la richesse de l'Église. Mais des fois, face à l'ennemi, face aux statistiques, on panique. Et on est prêt à échanger notre trésor pour les méthodes du monde qui ne valent rien à côté. Et puis, quand les gens viennent dans la maison de Dieu pour voir ce que ça donne, tout ce qu'on peut leur montrer, c'est un substitut bien pâle, bien pauvre, comparé à la richesse de la prédication de la croix qu'on a perdue. La croix de Jésus-Christ est un sujet qui a passionné les prophètes pendant des siècles. Ils voulaient sonder et comprendre. C'est un sujet dans lequel les anges désirent plonger les regards. C'est un sujet qui a fait brûler bien des cœurs en entendant l'explication. C'est un sujet qui va animer les louanges éternelles pendant des siècles et des siècles. Alors, qu'est-ce qui nous justifie de dire que, exceptionnellement, aujourd'hui, pour l'homme du 21e siècle, c'est un sujet obsolète, ennuyeux et dépassé? Paul, il doit reprocher les Galates, peut-être nous aussi des fois, d'être fascinés par autre chose que la croix. Il dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous ? Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous avez vu Jésus-Christ crucifié et vous vous laissez fasciner par autre chose. Ce n'est pas possible. Selon Paul, il n'y a rien de plus fascinant que le message de la croix. rien de plus efficace. Et une fois qu'on a vu Jésus-Christ crucifié, on ne peut pas être fasciné par autre chose. Sinon, c'est la bêtise, c'est être dépourvu de sens. Alors, je termine avec la fin de mon histoire au temple protestant et cette peinture en piteux état. Évidemment, on ne pouvait pas laisser les choses ainsi pour le jour du mariage. Alors, mon frère et moi, armés d'un seau de peinture et quelques grandes échelles, nous sommes montés au-dessus de cette chaire, contre la sagesse et le conseil de ceux qui veillaient plutôt à notre sécurité, et nous avons repeint les mots « Nous prêchons Christ crucifié ». Et je prie que chacun ici puisse accomplir le même travail de peindre Christ crucifié, d'entretenir en bon état cette devise de l'Église pour que l'Église de Jésus-Christ soit toute prête et toute jolie pour accueillir le monde et l'attirer à Dieu pour son salut. Que Dieu vous bénisse.